Alors, le fonctionnement d'Historix et Tyridion, donc je vous en parle parce que ça concerne la démocratie. Donc Historix et Tyridion sont des sociétés, donc il y a une direction, il y a une hiérarchie. Mais ce qui change tout, c'est qu'au lieu de rendre des comptes aux actionnaires, on rend des comptes aux salariés. Donc les salariés sont aussi associés et décident des décisions importantes. Donc ça, en fait, dès qu'il n'y a pas urgence dans la réponse, dès qu'il est possible de consulter les salariés, on essaie de le faire. Bon, c'est pas systématique, mais ça devient de plus en plus fréquent. Et on a développé donc, des outils qui le permettent. Aussi, au sein d'Historix, nous essayons d'introduire des mécanismes de subsidiarité. Donc, c'est en fait permettre, là où il n'est pas utile que ce soit la direction qui décide, mais où ce soit plutôt chacun qui décide, on essaie de l'introduire. Donc, on en parlera tout à l'heure. Même relativement petite comme les Historix, puisque Historix a 19 personnes, plus les Belges, rajoutés, de Tyridion. Le tout problème, c'est que les salariés aient accès à la formation. Donc là, ça se pose maintenant avec acuité, avec une répartition des salariés sur deux pays. Ça se pose avec acuité avec les salariés qui seront envoyés de temps en temps en mission. Ça se pose aussi... Le problème se pose aussi parce que les salariés, par moment, ne sont pas intéressés par le fonctionnement de l'entreprise. L'intérêt peut leur revenir un week-end, l'intérêt peut leur revenir pendant les vacances, l'intérêt peut leur revenir par moment. Et il faut qu'à ce moment-là, quand les salariés s'intéressent à un événement d'entreprise, à ses finances et tout ça, il faut qu'ils aient accès à l'information. Donc, dans nos fonctionnements, nous avons une nécessité d'informer les salariés, de consulter les salariés, et de permettre aux salariés de contrôler. Donc, d'où des outils d'information et des outils de prise de décision. Donc, dans cette présentation, je ne parlerai pas que d'Historix, mais je prendrai quelques exemples qui viennent du fonctionnement d'entreprise. Qui dit démocratie et e-démocratie dit vote. Le problème avec le vote électronique, c'est qu'il y a plein d'impératifs contradictoires à résoudre. D'abord, il faut identifier les électeurs, s'assurer que aucun ne vote deux fois, s'assurer l'anonymat des votants. On doit identifier l'électeur, on doit aussi être sûr que son vote, on ne peut pas retrouver son vote. On doit aussi, donc, confidentialité des votes, mais en même temps, authentification des bulletins. Parce que quand vous... Même en vote anonyme, dès qu'on utilise du logiciel, il y a nécessité de retrouver son bulletin de vote, même en cas de vote anonyme. Sinon, vous n'avez aucun moyen de contrôler que le vote s'est bien passé ou que le bulletin n'a pas été remplacé par un autre. Donc il faut des notions de jetons qui préservent l'anonymat, tout en permettant à quelqu'un qui connaît le jeton de retrouver son bulletin de vote. Donc ça, c'est déjà une première notion qui n'est pas évidente. Nécessité de vérifier, malgré l'anonymat, que chacun puisse retrouver son vote. Et il y a aussi l'autre problème. C'est pas parce qu'on retrouve son vote qu'on est sûr qu'il nous a été attribué qu'à nous. Vous votez oui à une question qui est binaire. Donc quand vous demandez à retrouver votre vote, si on vous présente un autre bulletin où il est marqué oui, vous pouvez dire c'est le mien, mais ça peut ne pas l'être. Donc déjà, il faut retrouver son vote et s'assurer que vous êtes le seul à avoir rempli ce bulletin de vote. Donc c'est un vrai problème dans l'e-démocratie, toutes ces notions de confidentialité et de sécurité. L'autre problème, c'est la fiabilité. C'est la fiabilité et le problème va se poser avec acuité parce que on adopte à l'échelle d'un territoire ou autre chose comme ça, des élections avec des bureaux déportés un peu dans toutes les villes, comme ça se fait actuellement, on obtient un réseau assez dense, avec un réseau avec un maillage assez élevé, et une nécessité de que tout ça communique avec un ou des serveurs en ne perdant pas d'informations. Donc là, on est encore sur des choses qui sont relativement complexes. Et le plus compliqué, c'est de garder la confiance des électeurs. La confiance des, les électeurs, ils ont confiance en un système de vote où le bulletin est passé. Parce que, grosso modo, ils ont l'impression de voir le mécanisme du bulletin, de voir son trajet et de le retrouver, enfin, sans l'identifier à l'arrivée. Mais sur la technique du logiciel de vote, on est sur des choses très compliquées. On est sur des choses qui sont, en termes de sécurité, on est à la pointe de ce qui se fait en termes de sécurité. Configurer un firewall, c'est quasiment plus simple que de configurer un serveur, des serveurs de vote en termes de sécurité, parce que enfin, c'est devenu quand même assez sensible. Et les configurer un firewall, c'est rien par rapport à un réseau de serveurs. Donc on est aussi à la pointe des problèmes de fiabilité, à la pointe des problèmes de cryptage et d'authentification, d'anonymat, choses comme ça. C'est, tout ça, c'est des technologies relativement nouvelles qui commencent à marcher, qu'on est en train de tester, chacun de ces composants est en train d'être testé, d'être utilisé et tout. Enfin, l'assemblage de tout ça, on en est quand même au balbutiement. Bien sûr, heureusement, il y a une solution, donc elle est propriétaire. Cette solution, c'est... alors, il y a notamment, j'en ai cité qu'un, c'est le leader du vote électronique, au moins proclamé. Donc, election.com, qui est un partenaire, qui fait un partenariat avec Accenture. Donc, leur communiqué de presse, c'est leur solution, elle est accurate, fast, reliable, transparente, secure, affordable. Alors, le problème, c'est qu'on n'a absolument aucune information sur la manière dont fonctionne le logiciel de vote. C'est complètement secret. Donc, moi, fast et affordable, peut-être. Tout dépend après. Mais tout le reste, ça demande à être vérifié. C'est-à-dire, transparent, bah déjà, ça commence mal. On ne sait absolument pas ce qui s'y passe déjà quand on veut voir ce que le logiciel, selon ses protocoles. On ne sait absolument même pas les protocoles qu'il utilise, s'il en utilise. Secure et affordable. Secure, on est obligé de les croire sur parole. Hein. Donc, ça, c'est le genre de choses qui, en deux démocraties, peuvent être assez graves. Quand même. Voilà, donc c'était ma petite critique.
Ils
le disent.
Ah ouais. Donc, identification des électeurs et anonymat, ils le font.
Il y a, en fait, bon, c'est pas les seuls à proposer c'est pas les seuls à proposer des solutions de vote. Ils parlent tous de créer des protocoles, notamment d'anonymat, choses comme ça. Il y a des discours. Il y a certains logiciels qui permettent de retrouver son vote, pas tous. Mais enfin. Dans tout ce qui est sécurité, on est vraiment obligé de les croire sur parole. Election.com, c'est une société qui en fait a repris qui est la plus grosse entreprise, puisqu'elle a repris des systèmes de vote mécanique. Elle a racheté des entreprises de vote de systèmes de vote mécanique. Donc ceux-là, on peut penser qu'ils sont. Enfin, ils sont c'est très rodés. Après, ils proposent du vote par le web. Il faut rester très très prudent. Alors, toutes ces sociétés-là ont énormément poussé au moment des élections présidentielles américaines. Depuis, le soufflet est bien retombé. Et on s'aperçoit que sur tous ces sites, ça fait quasiment un an que les informations n'ont pas été mises à jour. J'ai répondu à peu près à la question. Alors, il existe un logiciel de vote qui est libre, qui est en cours de développement et qui s'appelle GNU Free. Alors, GNU. Donc, comme le nom l'indique, il fait partie du projet GNU. Le projet GNU, grâce auquel on est certains d'entre nous à utiliser des PC sous GNU Linux. Donc, c'est un projet, on va dire, entre guillemets, officiel de la Free Software Foundation. C'est en cours de développement, donc c'est loin d'être fini. Il n'est pas évident qu'il soit moins avancé que des projets commerciaux. Peut-être en termes d'interface graphique, il est moins avancé, mais en termes de fonctionnalité, leur objectif, c'est d'essayer d'implémenter tous les standards. C'est un projet qui avance assez vite. Hein. Il y a une version, tous les deux mois, il y a une nouvelle version. Donc, c'est un projet qui est bien vivant. C'est un projet qui fonctionne sur la plupart des systèmes d'exploitation, donc macOS, Windows, et surtout des systèmes d'exploitation libres, donc GNU Linux et d'autres, hein, parce qu'il est écrit en Java. Donc son objectif, c'est implémenter toutes les méthodes de vote. On verra tout à l'heure qu'il en existe d'autres que le scrutin uninominal à deux tours ou ce dont on a l'habitude. C'est aussi participer à la création de standards. Il faut bien se rendre compte qu'il n'y n'y a pas encore de standard en deux démocraties. Il y a des projets de standards, mais il n'y a pas de standard un peu comme il y a avec le HTML et tout l'ensemble des protocoles Internet. Il n'y a pas de standard. Moi, quand on dit pas de standard, quand on dit chose fermée, je dis attention danger, surtout qu'on est sur des trucs très très subtils au point de vue confidentialité et sécurité. Voilà, donc ce projet, donc, l'URL, donc c'est freeproject.org, c'est un projet, il y a encore du travail, mais pour tout ce qui est vote et tout, c'est le projet, il n'y en a pas d'autre dans le monde du libre, hein, à ma connaissance. Alors, par contre, ce qu'il faut bien savoir déjà, c'est que dans le vote électronique, il n'y a pas de sécurité absolue. De la même façon qu'un firewall n'est jamais absolument sûr, aucun serveur, aucun chose n'est absolument sûr, dans le monde du vote électronique, il n'y aura pas de sécurité absolue. Dans le vote papier non plus. Hein. Mais le problème du vote papier, c'est qu'on a l'impression de le suivre, de voir le déroulement. Le vote électronique, l'utilisateur ne comprend pas forcément tout. Donc il y a la nécessité d'être extrêmement prudent. Hein. Parce que la démocratie, c'est quand même, bon, on en pense qu'on s'en veut, mais c'est un des fondements de nos pays. Si ça, on n'est pas sûr, on ne peut pas faire confiance. On ne sait pas. Si ça devient une bête noire qu'on ne maîtrise pas avec des failles de sécurité qu'on ne connaît pas, toute l'expérience du logiciel libre, du logiciel propriétaire montre qu'on ne connaît pas les protocoles, qu'on ne connaît pas le logiciel, les failles de sécurité s'avèrent souvent bien plus importantes. Donc il faut déjà demander qu'un logiciel soit libre, un logiciel de vote soit libre, ça me paraît déjà la moindre des choses, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que le matériel sur lequel ça tourne, il faut qu'il soit. Qu'est-ce qui prouve qu'un jour, c'est pas parce qu'une société, très bien, si ça existe, développe un système de vote, qu'est-ce qui prouve que le processeur qu'il va utiliser n'a pas été, ou le microcontrôleur qu'il a utilisé n'a pas quelque chose dedans. C'est des choses, on est sur des systèmes très complexes. Le vote électronique, c'est vraiment quelque chose qui, pour arriver à l'échelle d'un pays ou de. La démarche qui va nous pousser vers le vote électronique, parce qu'on va y arriver, elle doit être extrêmement prudente. Il n'y a absolument pas d'urgence à se précipiter.
Sauf que si on ne va pas assez vite, dans les initiatives qu'il y a dans certains pays, je pense par exemple ici à ceux qui tournent autour de Issy-les-Moulineaux, et en Belgique, à des initiatives de vote, et au fait qu'on vote déjà avec des outils électroniques, si on prend trop de temps, on va plus pouvoir rattraper facilement le fait que des outils d'autres types auront été mis en place, déjà été utilisés, et on sera alors confronté à une résistance au changement qui sera grande.
Tout à fait. Le logiciel libre, donc le GNU/Free, il avance. C'est aussi un peu c'est en tant que citoyen, là, c'est pas forcément en tant que militant du libre, il ne faut pas forcément foncer sur les logiciels de vote. Au niveau libre, on n'est pas prêt. Au niveau propriétaire, je pense qu'ils ne sont pas prêts non plus. Et je pense que c'est dangereux de les croire quand ils disent qu'ils sont prêts. Alors si ça se fait au niveau d'une collectivité, ce n'est pas trop grave. D'une commune ou une chose comme ça, on peut avoir confiance. Les enjeux ne sont pas énormes. Au niveau d'un pays, ça devient.
Oui. En Belgique, l'essentiel des votes aujourd'hui sont faits électroniquement.
Oui, et il y a une association qui lutte contre ça, je crois.
Ah, tout à fait, l'association Coureva, tout à fait, mais pour le moment, les succès sont assez relatifs, pour ne pas dire assez nuls. Malgré tout ce qu'ils ont fait, ils ont obtenu des succès au Conseil d'État et tout. En attendant, la manière, quand on parle de vote électronique en Belgique, c'est une machine, c'est un ordinateur non connecté dans un isoloir. Ça n'empêche qu'on ne connaît rien de la boîte qui est derrière.
C'est à chacun de faire son devoir de citoyen, de lutter contre, de vérifier dans la mesure du possible. Pour l'instant, le seul conseil qu'on peut adopter, c'est la prudence, c'est de dire on n'a pas de solution. Les solutions vont mettre énormément de temps à se développer. Hein. On en est vraiment au balbutiement des protocoles, on en est au balbutiement de tout. Il va falloir des années. Donc j'espère qu'on ne votera pas de manière électronique aux prochaines élections présidentielles en 2007 en France. ça paraît un peu tôt. Quand on voit le temps qu'il a fallu pour développer des systèmes de firewall à peu près sûrs et autres, on se dit, quand on est en niveau des serveurs web sécurisés et tout, on voit qu'on n'a pas fini, mais ça fait des années. Voilà, donc j'ai vu qu'il y avait des logiciels propriétaires, j'ai vu qu'il y avait un logiciel libre qui fonctionnait, donc c'est la fin de l'exposé, enfin ça pourrait l'être. Mais la démocratie, c'est pas seulement le vote traditionnel, là, parce que l'informatique apporte d'autres types, d'autres possibilités de vote, qui malgré les problèmes qu'on a vus au début de l'exposé, apportent des avantages certains. Donc déjà, ça permet d'autres types de scrutins qui ne sont pas possibles avec le scrutin papier, quand le dépouillement serait trop compliqué à la main. Ça permet des systèmes comme le vote instantané, le vote permanent, le fait d'avoir différents types de bulletins et différents systèmes de vote par délégation. C'est aussi le démocratie, c'est des nouvelles possibilités d'expression. Alors sur l'Internet, donc dans les intranets, dans les entreprises, dans les collectivités, ça se fait par écrit. Hein, donc c'est des outils de publication, des outils de filtrage et tri. Donc on va voir un peu ça. J'en connais qu'un qui tient de la route.
T'en entends pas là.
Je n'en connais. Madame demandait s'il n'existait qu'un seul logiciel libre de vote qui existait. La réponse est oui, le logiciel libre qui vraiment pour les libres, le vote traditionnel, je n'en connais qu'un. Les autres, il y a des outils de sondage et tout, mais avec aucune sécurité, aucune confidentialité, aucune. Là, on est dans le domaine de la petite binouille. Enfin, malgré tout le mérite qu'elles ont. Hein. Voilà. Dans, sur les sites, il y a plein d'outils de sondage, mais alors là, je veux bien pour un sondage, mais pas plus. Hein. Voilà. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait d'autres possibilités de méthode de scrutin qui étaient difficilement faisables avec un scrutin à papier. Alors, notamment la méthode Condorcet. Alors, il faut d'abord. Donc là, on va avoir les élections présidentielles 2002 en France. En Belgique, je ne sais pas. Le scrutin uninominal à deux tours, celui qu'on utilise, n'est pas forcément parfait. Alors après, c'est un problème de mathématicien, une chose comme ça. Mais globalement, le gagnant de l'élection, quel qu'il soit, sera le choix d'une minorité. Quand vous regarderez qui a voté pour le candidat final au premier tour, parmi le nombre de personnes qui électeurs potentiels, c'est, on va être sur des pourcentages de l'ordre de 10 à 20%, hein, sans doute, sauf le raz-de-marée. Or, il existe d'autres solutions, notamment une qui est la plus citée par les spécialistes en système de vote, c'est la méthode Condorcet, donc, le fameux français de la période après la Révolution. La méthode Condorcet, au lieu de mettre un bête choix binaire, oui ou non, vous allez classer vos candidats par ordre de préférence. Donc sur votre bulletin, vous allez mettre, tiens, celui-là je le mets en premier, celui-là je le mets en deuxième, celui-là je le mets en troisième, celui-là je le mets en quatrième, celui-là je le mets en cinquième. Après, donc le dépouillement, c'est là où l'informatique a toute sa justification, c'est qu'on va comparer bulletin par bulletin, chaque candidat devant chaque autre. Donc vous allez prendre le candidat A et le comparer au candidat B dans tous les bulletins. Vous comptez le nombre de fois où le candidat A arrive devant le candidat B. Vous comptez le nombre de fois où le candidat B arrive devant le candidat A. Si le premier nombre est supérieur, on dit que le candidat A a gagné son duel. Et le gagnant par la méthode Condorcet, c'est le candidat qui a gagné tous ses duels.
C'est pas sûr.
Alors voilà, donc s'il n'existe pas de vainqueur par la méthode Condorcet, il existe après des méthodes, bon, enfin c'est des méthodes plus ou moins arbitraires, pour désigner. On est dans un cas d'indécision, on est dans un cas où il y a égalité selon la méthode cadencée, donc il y a des algorithmes plus ou moins arbitraires pour arbitrer. Un de ceux qui est utilisé par exemple, c'est de prendre comme gagnant celui qui a la plus faible défaite. On prend, voilà. Alors ça, on est dans un cas où il y a indécision, il faut une règle. Et les candidats sont très proches l'un de l'autre, il faut une règle. Mais sinon, la méthode Condorcet est considérée de l'avis quasi unanime des spécialistes, dont je ne suis pas, comme la méthode la plus juste parce qu'elle permet de déterminer le candidat le plus consensuel. Il y a eu des sondages, des études qui ont été faites sur les dernières élections américaines. Donc entre Bush et Gore, ça aurait été Ralph Nader qui aurait gagné. Et comment ça se passe ? Parce que, en fait, un républicain va voter d'abord pour Bush, mais comme il ne veut pas de Gore, il va mettre Nader en second, et Gore en troisième. Et avec les autres, dont j'ai oublié le nom, si je les ai jamais connus. Même chose avec un démocrate qui va d'abord voter pour Gore, ensuite pour Nader, ensuite pour Bush, c'est bien d'après. Donc, globalement, si on rajoute en plus les électeurs qui ont voté pour Nader en premier, on arrive à ce que Nader soit le candidat le plus consensuel. Alors, donc il y a un autre vote selon la méthode Condorcet qui est en train d'être tenu sur le vote standhistorex.org. Bon, alors ça n'a absolument pas de valeur scientifique, c'est juste pour rigoler. Donc on compare les deux méthodes. Pour l'instant, sur le stand, là, il y en a un, bon, avec aucune valeur scientifique, il y en a un, c'est suivant le vote uninominal à deux tours, c'est je crois Noël Mamère qui gagne en ce moment, et suivant le scrutin Condorcet, c'est Valéry Jospin. Enfin, c'est plus des militants qui ont voté que des. Donc ça n'a pas de valeur scientifique du tout. Voilà. Alors, un organisme dont j'aimerais bien vous parler, un organisme du libre, c'est Debian. Donc Debian, c'est une distribution de logiciels libres comme Mandrake, Red Hat, Caldera, un certain nombre. Debian, c'est pas une entreprise, c'est une association de gens qui s'occupent de packager chacun des logiciels, pas de les programmer, mais de les mettre sous forme de petits paquets. Alors, dans Debian, il y a 8000 packages, je m'excuse pour mon anglicisme, et il y a 800 mainteneurs. Donc, c'est ça qui fait la force de Debian, parce que de par son mode de fonctionnement, le fait qu'elle soit une association de développeurs qui n'ont pas d'impératif de temps et de choses comme ça, et ben, ça fait de Debian la distribution de très loin la plus sûre, la plus adaptée, enfin, en tout cas la plus adaptée à l'administration. C'est 800 administrateurs qui travaillent pour eux-mêmes, donc on a une distribution très stable. Enfin, c'est pas pour ça que je vous parle de Debian, c'est Debian est une association où les décisions sont prises, sont votées par les développeurs. Donc la plupart des décisions en fait sont prises par consensus, donc il n'y a pas vote, c'est du consensus, donc tant que la décision, ils en discutent dans les listes de diffusion, tant que la décision paraît techniquement pas bonne, parce que c'est souvent des problèmes techniques en fait, ils remettent ils refont un tour, ils réfléchissent, puis ça prend un an, deux ans, puis à un moment il y a une bonne solution qui se dégage, et à ce moment-là elle fait souvent l'unanimité, donc la réalité. Mais dans certains cas, il y a des élections, et dans le cas de Debian, les élections se font selon la méthode Condorcet, notamment l'élection du project leader. Donc c'est le plus grand utilisateur de la méthode Condorcet. Il faut bien voir qu'au niveau démocratie, on en est vraiment aussi, en termes d'utilisation, on est hallucinant. C'est un peu symptomatique que ce soit une association du libre qui utilise la première à utiliser un peu des logiciels de vote, de manière vraiment fonctionnelle. Alors, donc on a vu le vote Condorcet, donc il y a un système de vote, il y en a d'autres. Hein,
qu'est-ce qu'ils utilisent comme logiciel là, chez Debian ?
C'est un petit utilitaire qu'ils ont programmé par un développeur Debian qui s'appelle DemVote, qui en fait permet d'envoyer par mail son vote en le faisant signer, en le signant. Donc c'est tout développeur Debian a sa signature qui permet de crypter et d'authentifier ses mails. Donc les votes sont publics, il n'y a pas de secret. Donc c'est un des problèmes de la démocratie. Un des problèmes qu'on avait au début ne se pose pas dans le cas de Debian, les votes sont publics et ça se fait par email. Avec un dépouillement, avec un petit logiciel qui fait. C'est un tout petit logiciel qui fait 1000-2000 lignes, écrit en perle. Alors, le vote permanent, c'est un autre. Donc, je vous ai dit qu'il y avait d'autres méthodes de vote Condorcet, mais je ne vous en parle pas. Par contre, il y a d'autres types d'élections qui sont possibles et qui ne sont pas possibles avec un scrutin papier, notamment le vote permanent. Alors, qu'est-ce que c'est que voter de manière permanente ? Voter permanente, c'est pouvoir modifier son vote au cours du temps. En fait, on s'est rendu compte, et notamment dans notre entreprise, on fait un certain nombre de votes, que la plupart des décisions ne sont pas des décisions tout ou rien qu'on doit prendre d'une manière à une date donnée sans pouvoir changer d'avis après. Dans un grand nombre de cas, la décision, on prend à un moment une décision. Par exemple, on dit on voudrait décider de faire de la régie. Donc, dans le cas d'Easter Egg, le problème s'est posé. On se dit, est-ce qu'on fait de la régie ? Donc on fait un vote, mais au début, on se fait une idée de la régie qu'on ne connaît pas trop, parce qu'on n'a pas encore eu de contrat de régie. Donc quand les premiers contrats de régie arrivent, la question se pose d'une autre manière, parce que peut-être que si on a voté oui, si les salariés d'Historex ont voté oui à la question de régie, quand ils voient les premiers contrats de régie qui se font dans des conditions, qui se feraient, dans des conditions assez déplorables, où on envoyait le bout de la France et tout, le salarié qui a voté oui peut dire non, dans ces conditions, je ne veux pas. Donc dans ce cas-là, la notion de permanence a toute son validité. Sinon, le vote n'est qu'un blanc-seing, parce que quand on vote sur une phrase, c'est très dur de voir toutes les conséquences qu'il y a derrière. Donc la notion de vote permanent est une notion assez intéressante qui fait que le votant peut changer d'avis. Voilà. Alors je vous donne un exemple de vote réel. Donc dans Historex, on a tous le même salaire, et ça a été voté. Donc voilà, je vous le montre. Alors c'est donc là, il y a un certain nombre de choses. Alors c'est un vote Condorcet. Donc le vote, il y avait trois candidats, c'était le oui, le non, le refus de cette élection, trois choix possibles. Et chacun a voté. Alors c'était donc là, il y a 12 votants. Tout le monde a voté oui. Il y avait trois possibilités, oui, non, refus d'élection. Donc tous ceux qui ont voté ont mis oui en 1. Et après, soit refus d'élection, soit non. Refus d'élection, c'est-à-dire que la question ne se pose pas. Il y a souvent des votes où on peut se dire non, la question elle est mal posée, j'en veux pas telle qu'elle est formulée, donc dans ce cas-là, on refuse l'élection. C'est beaucoup plus fort que de dire je m'abstiens. Ça veut dire que non, je ne suis pas d'accord qu'on pose cette question. Ça aussi, c'est des idées qui ont été prises faites par des millions. Voilà, donc là, on s'aperçoit que le vote permanent sur l'égalité des salaires, actuellement, c'est oui. Il y a assez peu de votants parce que ce vote a été pris il y a longtemps, et comme personne voit l'utilité de changer d'avis ou de choses comme ça, les nouveaux arrivants, choses comme ça, ne vont pas forcément mis à jour. Le jour où le problème s'en posera, à ce moment-là, les votes vont. Il y aura sans doute plus de votes. Donc voilà pour un exemple de vote permanent. Alors un autre problème qui peut se poser et à laquelle l'informatique peut apporter une solution, c'est le vote public ou le vote secret. Le vote secret a un énorme avantage, c'est qu'il préserve la vie privée et la décision des gens. Le vote public, dans le cas d'une association, d'une collectivité, d'une entreprise comme la nôtre, a des avantages. Ça, dans une entreprise, même dans la nôtre, on est 19, plus les entreprises, c'est Belge, Thérillon, on ne connaît pas forcément l'opinion de tous ses collègues, parce que chaque collègue déjà n'intervient pas forcément dans les réunions. Il a ses idées, mais certains sont plus timides que d'autres, ne veulent pas les exprimer en public. Tout le monde ne participe pas à la mailing list dans la liste de diffusion des salariés. Donc, il est assez difficile de savoir ce que pense chacun. Ça peut être embêtant parce que on a tendance à grossir quand même. On doit nommer un certain nombre de collègues à des postes de responsabilité dans l'entreprise. Pour savoir ce qu'ils pensent, pour savoir ce qu'ils ont voté par la suite, pour savoir un peu quelle est cette personne, le fait de connaître son vote permet de connaître ses opinions, permet de savoir un peu comment elle se situe et tout. Donc déjà, et puis ça vous permet aussi de vérifier que les dirigeants font un peu ce qu'ils disent. Donc le vote public, le vote secret, les deux ont leurs avantages. On s'est posé longtemps la question si Historex, jusqu'à ce qu'il y ait un salarié qui est présent dans la salle, qui a trouvé une solution, qui est de dire c'est au moment où chacun va voter, qui va dire si son bulletin est public ou son bulletin est secret. Donc alors, on a fait d'abord une première élection, qui est aussi un vote permanent, sur la nature des bulletins de vote. Donc là, il y avait un certain nombre de candidats, donc bulletin public pour toutes les élections, c'était pour ceux qui voulaient que tout soit public. Bulletin privé pour toutes les élections, qui sont les défenseurs de la vie privée des gens. Bulletin privé pour les élections de personnes, où là, on élit des gens, donc il ne faut pas se fâcher. Dans ce cas-là, on fait des bulletins privés, et publics sinon. Après, bulletin public ou privé au choix du votant pour toutes les élections, donc l'idée dont je vous parlais. Ou alors, nature des bulletins de vote, choisis au cas par cas à chaque élection. Donc on a eu cette élection-là, et donc ce qui a gagné, c'était bulletin public ou privé au choix du votant pour toutes les élections. Donc au début, vous avez la liste des votes de chacun, après vous avez le dépouillement, et à la fin, vous allez gagner. Donc ça, je ne rentre pas trop dans les détails techniques. Ça, vous pouvez le voir sur notre stand. On peut vous expliquer un peu. C'est la méthode condensée, donc vous expliquer comment ça se passe. Donc là, on s'aperçoit que le candidat bulletin public ou privé au choix du votant pour toutes les élections a eu 5 victoires. Donc il a battu tous les autres candidats. Voilà. Donc avec 4 abstentions cette fois-ci sur le.
Pourquoi
il y a eu 20 électeurs inscrits, 16 votes.
Qui décide?
questions, là.
Pour l'instant, ça se fait de manière, on va dire, plus ou moins consensuelle. On en discute dans la mailing list. On a trois administrateurs actuellement des élections qui peuvent mettre en élection.
Est-ce que vous avez pris en compte, pour votre organisation, mais pour des, je pense que vous essayez de transposer ça pour des organisations démocratiques de grande taille,
ouais.
Est-ce que vous avez pris en compte le problème de l'achat de vote, qui est quand même un des problèmes qui justifie le secret?
Oui, alors dans l'entreprise, ça se pose pas vraiment parce que le problème s'est pas posé vraiment. Avec ce type de bulletin, donc le vote qui a été fait, on peut, donc je vais vous montrer un autre exemple. Chacun décide au moment où il vote s'il est public ou privé. Donc je vous montre un exemple. Donc ça, c'est un vote de personne, c'est un exemple réel. C'est une élection qui s'est faite il y a pas longtemps. On a décidé de nommer quelqu'un pour contrôler un peu les comptes, quelqu'un qui soit pas vraiment de la direction entre guillemets. Et donc chacun a voté. Donc certains ont voté avec de manière publique, d'autres ont voté de manière anonyme. Alors c'est mal présenté, mais c'est le nombre qui est à gauche. Dans ce cas-là, on ne sait pas qui a voté quoi. Donc comme il y a suffisamment de personnes qui ont voté de manière anonyme, il est impossible de savoir.
Non, parce que le problème de l'achat de vote, c'est que celui qui est acheté va essayer par tous les moyens de prouver son vote. Et c'est une technique qui pose des problèmes en sécurité.
Oui,
c'est important.
C'est
la complicité de la victime du fraudeur. Les fraudeurs aussi.
En toute honnêteté, je me suis vraiment pas posé, on se suis pas vraiment posé le problème. Par contre, il y a des études qui sont faites, alors là c'est plus sur la méthode Condorcet, parce que donc il y a tout un tas de types d'attaques sur les votes, sur les modes d'élection. Donc chaque, il y a aucun scrutin, le scrutin parfait en termes de sécurité, c'est le choix au hasard. Ça, c'est la perfection absolue. C'est insensible aux attaques de type à chaque candidat, des choses comme ça. Sinon, il n'y a aucun candidat, aucun mode de scrutin qui n'est parfait. Le scrutin Condorcet est un de ceux qui résiste le mieux aux attaques. Alors, je suis désolé, la conférence a commencé un peu en retard. Donc là, il y a une pause que je dois annoncer d'un quart d'heure. Après, la conférence qui a lieu après est annulée. Ma conférence reprendra parce que si je ne fais pas la pause maintenant, je vais me faire gronder. D'accord, donc vous pouvez boire des cafés, boire des jus d'orange et revenir.
La conférence après est annulée.
La conférence d'après est annulée, la conférence de Nicolas Julien sur l'introduction de Linux dans l'entreprise est annulée. Donc c'est inutile au public. Est apparue une nouvelle notion aussi, surtout quand on a mis un certain nombre de votes sur accessibles par l'internet, donc accessibles vraiment du public. Donc est apparue la notion de justifier son vote. Donc si on revient sur le vote précédent, on s'aperçoit qu'on a rajouté une possibilité de commenter son vote. Donc c'est une notion qui est apparue avec les besoins. Hein, donc ça, c'est encore une chose que permet ce type de vote. Alors un autre point qui a énormément d'avenir à mon avis, selon l'avis de certains, c'est le vote par pondération, vote par délégation. Que je vous explique. Le vote par tout problème, c'est qu'il y a un certain nombre de décisions qui concernent l'ensemble des personnes à égalité. C'est tout, par exemple l'élection présidentielle, l'élection dans le cadre d'une entreprise, l'élection du gérant, dans le cadre d'une association, l'élection du président de l'association. Par contre, il y a d'autres décisions qui sont des actes de spécialistes, notamment par exemple, on va parler des commerciaux, mais je prends des informaticiens. L'avis des informaticiens sur un. Quand on a un problème technique en informatique, et que ce problème peut être résolu par un vote, l'avis des commerciaux a sans doute un peu moins d'importance que l'avis des informaticiens. Donc tout le problème, c'est comment arriver à concilier démocratie et différents niveaux de spécialisation de chacun dans chaque domaine. Donc là, nous, on avait testé une solution qui s'appelait on l'appelait le vote par pondération. Ça consistait à d'abord mettre une note à chacun dans chaque spécialité. Donc dire lui il est compétent commercial, très compétent, pas compétent, enfin mettre une note entre un pourcentage. Ça marche pas parce que en fait chaque salarié vote à peu près pour les mêmes personnes. Et leur donne il y a un certain nombre de personnes qui commercialement sont jugées bonnes, donc elles ont toutes des bonnes notes. Le problème, c'est que comme la note, il y a un pourcentage à réparer et repartir entre chaque personne. Et il y a tout un tas de personnes qui ont des notes très 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 faibles, très proches de zéro. La moyenne de tout ça, avec, quand on additionne tous les suffrages, ça fait une moyenne qui est très très proche de zéro. Et donc du coup, chaque votant se dit, bon, moi je suis peut-être un développeur, mais quand je vote sur une décision commerciale, mon vote a quasiment aucune importance. Donc c'est très démotivant. Même quand on s'estime soi-même assez, avoir des idées en commercial, être assez bon même développeur, ben ça, enfin voilà, ce type de, c'est le premier vote par pondération. Donc il y a une première solution, c'est de rétrécir les écarts, ne pas permettre que quelqu'un ait une pondération de 50% et que l'autre ait une pondération de 0,01, mais de pouvoir limiter d'un facteur arbitrairement de 4, 8, 10. Mais ça, c'est... Enfin bon, il y a une autre méthode qui permet d'éviter ce problème, c'est le vote par délégation, qui, elle, a sans doute un grand avenir derrière, devant elle. C'est le vote par pondération, par délégation, ça permet de donner son vote ou une partie de son vote à une autre personne. Donc, par exemple, si je m'estime pas bon en commercial ou pas intéressé par les décisions commerciales parce que je suis chez un client et que je fais de l'informatique ou des choses comme ça, à ce moment-là, je peux déléguer mon vote à des personnes en lesquelles je respecte les décisions commerciales, avec possibilité de le reprendre ponctuellement pour une élection donnée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va bientôt tester. On n'a pas encore testé. C'est des choses qui existent dans d'autres logiciels. À voir. Et c'est quelque chose qu'on croit énormément. Le gros avantage par rapport au vote par pondération, c'est que si vous décidez de... Maintenant que votre vote a de l'importance, ben vous avez, votre vote vaut toujours au minimum 1. C'est-à-dire, vous. Donc vous n'êtes pas mis à l'écart. Voilà, c'est le gros avantage. Notamment, il y a un certain nombre de salariés, bien que développeurs, veulent influencer les décisions commerciales. Et avec ce système-là, ils peuvent. Alors, pour récapituler, on a vu un certain nombre de choses avec le vote. Pour récapituler un peu les avantages de le vote, donc ça permet une prise de décision assez rapide. Donc la plupart du temps, on laisse maintenant un délai de 15 jours entre le moment où on pose la question et le moment où tout le monde considère que le scrutin a une valeur. Mais dans les cas d'urgence, on nous demande de signer quelque chose, une pétition, un truc comme ça, ou qu'il y a quelque chose d'urgent à faire, en 2 jours, on arrive à obtenir un vote des salariés. Bon, il faut la lancer 2-3 fois, des choses comme ça par email, mais en 2 jours, on est capable de prendre une décision. Donc c'est très très rapide. L'avantage aussi de le vote, bon, c'est que ça permet d'introduire des mécanismes de subsidiarité. Alors je vais vous en donner un exemple toujours réel. Donc EasterEggs et Teridion reversent, enfin EasterEggs pour l'instant, reverse 2% de son chiffre d'affaires au libre, au monde du logiciel libre, à l'économie solidaire. Donc comment est-ce qu'on a décidé de faire ça? On aurait pu dire, bon, ben, c'est la direction qui décide, qui et combien. En fait, c'est quelque chose qui concerne chaque salarié, c'est quelque chose où chaque salarié a un peu ses préférés. Donc on a fait un vote en 2 temps. Donc déjà, on a voté est-ce qu'on était oui ou non contre le reversement de 2% du chiffre d'affaires. Après, on a voté organisme par organisme. On dit est-ce que oui ou non, on veut voter pour est-ce qu'on accepte que cet organisme fasse partie des organismes auxquels on reverse quelque chose. Donc, par exemple, dans le cadre des Lyons, ça a fait l'unanimité. Exemple, voilà. Oui, il y a 17 oui, 20 votants, 3 abstentions. Voilà. Et une fois qu'on a voté organisme par organisme, après, on répartit, chaque salarié répartit, dit, bon, moi, sur les 2%, si on est 20, j'ai 1/20 de ce budget-là, voilà comment je le répartis. Donc chaque votant a mis un pourcentage. Donc par exemple, moi, j'ai mis 50% à Debian, 50% à la Free Software Foundation France, et puis 0 aux autres. Chaque salarié a fait ce qu'il voulait. Et donc le résultat, c'est la moyenne de tout ça. Donc ça nous permet, on sait qu'on, bah, ce mois-ci, on reverse 42,09% du chiffre d'affaires mensuel à Debian. Donc ça, c'est... Donc chaque salarié, son vote a de l'importance. Voilà. Alors le gros avantage de le vote, c'est que vous pouvez faire des réunions tant que vous voulez dans vos entreprises, si ça se finit par une décision de toute façon de la direction, ou même s'il y a consultation et tout, le salarié, la plupart de... Enfin, bien souvent, les salariés ne se sentent pas impliqués. Ou ils se sentent impliqués de manière lointaine. même ils se croient impliqués, mais ils ne le sont pas forcément. Là où l'implication, où la réflexion du salarié commence vraiment, et ça c'est quelque chose qu'on a vu, c'est au moment où il vote. C'est pas forcément dans le débat qui a lieu avant, c'est au moment où il vote, il se pose vraiment la question, surtout d'ailleurs quand le vote est public. Je ne vais pas en tirer, c'est quelque chose qu'on a constaté de manière empirique, hein, mais c'est quelque chose qu'on a vraiment constaté. Donc voter, c'est réfléchir. Peut-être que de temps en temps, la première fois qu'on vote, on vote une bêtise. parce qu'on a réfléchi, mais on a réfléchi en urgence. Mais après, on peut changer son avis dans le cas d'un vote permanent. Et c'est donc de ce cas-là, on est sur des votes itératifs. Et on corrige un peu son vote. Donc ça, c'est le fait de voter, même voter une bêtise, ça permet de réfléchir.
Vous avez un bel avenir dans les CE, dans les entreprises.
J'aimerais bien.
Dans toutes les boîtes qui font, tu sais, d'appliquer dans les DRH. Il faut aller voir toutes les DRH des grandes boîtes. Vous avez un énorme marché là, énorme.
Alors, voter, ça ne suffit pas. Il faut aussi connaître l'information et pouvoir en débattre. Donc, il y a de nombreuses solutions qui existent en logiciel libre. Donc, il y a déjà les listes de diffusion et les groupes de discussion. Alors, le problème de tout ça, c'est que quelque chose qui est mis sur. Même quand on archive ses emails, une chose qui est mise sur une liste de diffusion, il faut considérer qu'elle est oubliée immédiatement. Donc, ça ne permet pas de faire de synthèse. Alors, il y a d'autres solutions qui, en logiciel libre, j'en ai cité deux, mais il y en a plein d'autres. Donc, je vais vous parler par exemple de Dacode qui est fait par les Français du LuxFR. Donc, c'est des weblogs, c'est on met des news. Enfin, je pense que vous connaissez maintenant tous. Alors, le problème, c'est que ça a les mêmes problèmes que cette diffusion. Même si c'est archivé, l'information est éphémère et non structurée. Et le débat n'aboutit pas à la construction d'une information de plus en plus riche. Bon, il y a débat, les gens se disputent entre eux. Enfin, il n'y a pas de synthèse. Alors, il y a un autre type de logiciel qui est très intéressant, dont je connais un exemplaire, c'est SPIP. Alors, SPIP commence à être très, très connu dans le monde de l'économie solidaire. Donc SPIP, c'est un logiciel qui est assez récent, il existe depuis l'été, ou un peu après l'été en version 1. C'est un logiciel qu'on utilise d'ailleurs sur le site, qui permet d'écrire des articles. Donc vous écrivez des articles dans une syntaxe qui est très très simple, c'est destiné à la publication sur le web. Et c'est cet article, une fois qu'il est. Vous le soumettez à la publication, et une fois qu'il est accepté par une des personnes qui a le droit d'accepter les articles, cet article est publié et visible par tout le monde. Donc ça, c'est SPIC, très connu. Il y a un logiciel qui a pas mal d'avenir. Il y a aussi la nécessité de filtrer l'information, parce que quand il y a trop d'informations, il n'y a plus l'information. Dans les logiciels dont on a parlé, il y a déjà dans les weblogs, donc il y a maintenant la plupart, avec l'affluence, développent leur système de notation pour cacher les messages qui sont jugés non pertinents. Ils ont tous un système différent, mais globalement ça consiste à voter de manière quasiment instantanée oui ou non. Chacun dit oui, enfin un certain nombre de gens ont le droit de donner un avis sur des articles, et si l'article est jugé mauvais par un certain nombre de gens, il est caché. Pas forcément enlevé, mais caché, donc un peu plus difficile d'accès. Il y a un autre système qui a été développé pour le site advogato.org, qui est le logiciel s'appelle Mode-Virgule. Et là, c'est basé sur chaque développeur, chaque personne du site met des niveaux de confiance, donne un niveau de confiance aux autres personnes du site, ou à un certain nombre de personnes sur le site. Et donc, celles qui ont le bon niveau peuvent écrire des articles. Bon, c'est un peu plus compliqué dans la pratique, mais il faut aller voir. Et sinon, alors, il y a un logiciel absolument excellent. Il est là, qui est développé par Emmanuel Charpentier, qui est ici, et qui travaille chez Alco, c'est un projet personnel. Et c'est un logiciel qui n'est pas encore vraiment public, j'ai un peu eu la primeur pour cet exposé. C'est un système d'écriture collaborative qui permet à chacun de noter les articles ou les bouts d'articles des autres, et seuls les bouts d'articles, les articles qui sont qui ont été votés et qui ont passé l'élection sont publiés. Alors c'est un projet qui a bien sûr énormément d'avenir. Alors, et il y a un dernier logiciel, c'est Vote, c'est un nom très provisoire, mais c'est celui qu'on voit en ce moment. Donc tous les exemples de vote que je vous ai montrés, c'est fait avec ce logiciel. Donc c'est à la fois un logiciel de vote, à la fois un logiciel de publication, parce que on peut écrire des articles. C'est la même syntaxe que SPIP, on n'a pas réinventé la roue, comme ça, ça permet de reprendre des articles de l'un dans l'autre. Et ça permet aussi de décider, alors avec moins de finesse pour l'instant que Veni, Vidi, Voti, mais enfin, j'espère qu'on va se... Il y a des idées qu'on va copier, c'est l'avantage du logiciel libre. Pour le choix, on peut dire si un article ou une élection, on va parler d'un article, est lisible seulement par une personne, donc au moment où on écrit son article, c'est un brouillon, donc il n'y a que nous qui pouvons le lire. Après, on dit, ben, tiens, je voudrais que ce soit lisible par un ami, donc on rajoute un lecteur. On voudrait dire, tiens, je voudrais que cet ami puisse écrire, donc on rajoute quelqu'un qui a le droit d'écrire. Voilà. Et après, on peut dire, ben, non, ça y est, c'est lisible par toute l'entreprise ou par tout le monde. Donc un simple changement de menu et votre une élection ou un article qui était prévu devient public. Donc ça permet très vite d'aller vers la transparence. Bon, alors le vote est disponible sur le site Entrouvert. Entrouvert, ça veut dire entreprise ouverte. C'est une émanation d'Historique des territoires. Je suis un des co-développeurs. C'est un logiciel récent pour développement. Il est utilisé en interne, donc il marche, hein, mais tout n'est pas encore parfait, il marche. Ce qui est important aussi, c'est qu'il n'y a pas que le vote, justement, c'est aussi la publication et tout. Ce qui est très intéressant, ce qui est très important aussi dans notre cas, c'est de pouvoir avoir les informations comptables et tout. Donc on va développer un module, c'est la réception qui a commencé sur le suivi de la trésorerie. Qu'un utilisateur puisse suivre une mi-compta simplifiée et en cliquant sur la compta, puisse voir la ligne de facture à laquelle ça correspond avec le scan de la facture. On dit que c'est un outil de transparence et de démocratie avant de trouver un autre solvant. Voilà. On se dit que ça pourrait servir aux entreprises, ça c'est sûr, enfin certaines, quelques rares entreprises, associations, collectivités territoriales. En tout cas, bon, c'est notre objectif. Voilà. Je vais finir en disant, il y a quand même. Je vous ai présenté quelques logiciels libres, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est le mécanisme de développement des logiciels libres. Parce que le monde des logiciels libres, ça se caractérise par une multitude d'initiatives différentes. Donc, il y a énormément de projets libres. Il y a chacun avec un fonctionnement différent. Bon, par exemple, le cas du boyau Linux, il y a un dictateur éclairé, j'espère que l'industrie ne fera pas d'appel comme ça, qui lui, finalement, tranche les décisions. Dans le cadre du projet Apache, c'est un certain nombre de développeurs qui se sont auto-élus les uns les autres, donc une sorte de méritocratie. Bon, chaque projet a un peu son mode de fonctionnement. Mais ce qui est important, ce n'est pas tellement leur mode de fonctionnement, parce que c'est surtout la manière dont les informations sont partagées. Parce que dans le monde du libre, tout est public. Il y a les sources des droits, bien sûr, c'est le logiciel libre. Il y a les listes de diffusion, donc quelqu'un qui ne connaît pas peut aller lire ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, des choses comme ça. Il y a avec les archives. Et il y a aussi tous les outils. Quand un logiciel libre utilise un outil, un autre logiciel différent, concurrent, qui déteste le premier, peut aussi utiliser le même outil, ce n'est pas un problème. Donc chaque projet libre enrichit les uns les autres, et chaque projet est ouvert sur l'extérieur. Donc ça permet à des gens qui ne connaissent pas de venir aider, éventuellement, dans le pire des cas, de dire. Si je suis pas d'accord avec ce que vous faites pour ce logiciel, donc le proposer un changement, si la personne ou les personnes qui dirigent entre guillemets le développement du logiciel ne sont pas d'accord, il peut toujours se faire ce qu'on appelle un fork, c'est-à-dire un autre projet avec la même base. Donc cette idée de opposition, collaboration, mais de toute façon de tout dans la transparence, c'est quand même quelque chose. Ça c'est un bel exemple de démo. C'est l'exemple qu'il faut bien. C'est sans doute ce qui peut servir à autre chose qu'au monde du libre. Donc la transparence, l'idée à retenir du logiciel libre. Voilà. Et ça pourrait s'appliquer aux collectivités territoriales, parce que dès que vous avez une superficie assez grande, vous avez vous pouvez intéresser beaucoup de personnes qui sont intéressées par les informations d'une région. Les informations sur une région peuvent intéresser toutes les personnes de la région. Bon, par contre, il y a moins qui contribuent, mais on est dans les mêmes effets d'échelle qu'avec le logiciel libre. Le logiciel libre, tout le monde n'est pas développeur, tous les développeurs ne redonnent pas leurs modifications en libre. Donc il y a peut-être des idées à prendre dans les collectivités territoriales, et ça s'applique aussi aux groupes humains, aux autres groupes humains, associations, et nous on essaie de montrer aux entreprises. Voilà, donc on a un stand de 4 au fond Linux Expo. On peut parler plus en détail de tout ça avec, bien sûr, le vote sur les élections présidentielles. Enfin, vote entre 36 millions. Voilà, donc si vous avez des questions.
Peut-être pas une question, mais un commentaire. J'ai vu déjà. il y a un système qui permet de proposer, que les citoyens proposent des lois d'une manière très très proche de ce que nous faisons dans le monde logicieliste, pour proposer de nouvelles solutions pour faire accepter des choses. Donc en fait, là, ça marche grosso modo de la manière suivante. Les gens qui veulent, les citoyens, la seule condition c'est qu'il faut être estonien pour pouvoir participer. Les citoyens qui veulent s'inscrire sur un site, tous les gens inscrits peuvent faire des propositions de texte qui sont soumis à discussion et à débat pendant un certain temps. Débats qui sont organisés par celui qui fait la première proposition, c'est à lui que revient la charge de faire un résumé de ce qui a été discuté et de retravailler son texte. Il peut le faire bien sûr en collaboration avec d'autres personnes, mais c'est lui qui doit amener le plus loin. Puis il y a une deuxième étape de discussion validation, puis une étape de vote par l'ensemble des gens qui sont inscrits. Et si le projet passe un certain seuil, hop, il est repris par une assemblée à ce moment-là élue par les méthodes démocratiques, les deux tours que nous connaissons habituellement, et c'est mené jusqu'au Parlement. Donc c'est un truc qui marche aujourd'hui en Estonie.
Une autre intervention, j'ai pas comment dire.
Est-ce que vous avez des contacts avec des collectivités locales ou avec des organismes comme la Caisse des dépôts et...
Non, pas pour l'instant. Mais le logiciel qu'on développe, il est très récent. Hein, il date de développement, enfin, les premières utilisations ont coïncidé quasiment avec les débuts du développement. C'était la fin des vacances scolaires de 2001. Donc c'est une activité qu'on va pousser. C'est notamment vocation. C'est pour ça qu'on a créé un nouveau site entre ouverts et on peut créer sans doute une nouvelle activité commerciale sur ces bases-là.
Parce qu'il y a une grosse demande actuellement sur des sites collectivités locales.
Là, tout de suite après le Luxembourg, on va commencer à connaître tout ça. J'espère.
Comme pour ça, tu peux voir avec Philippe Allard, qui est la personne qui est autour de IIPO. Beaucoup de choses autour du livre à Lille, puisqu'il a réussi à obtenir que toute l'infrastructure pour faire l'intranet métropolitain à Lille sera du logiciel libre. Il fait plein de choses, et il a écrit notamment des méthodologies de vote qui ressemblent grosso modo à ceci. Donc je crois qu'il sera intéressé.
Ne vous inquiétez pas, je pense qu'on va faire un centre d'essai. Les mêmes impératifs de sécurité, de confidentialité au début. Alors c'est quelque chose vers lequel on tend, mais on n'en est pas au niveau sécurité, on est à des années-lumière en arrière par rapport à Knufri. Des années-lumière. C'est quelque chose sur lequel on travaille, on sait qu'il y a des failles dans le logiciel. Mais à partir de maintenant, on va y travailler à plein temps, notamment moi. C'est une des choses sur lesquelles je sais qu'il y a des failles. Je ne vais pas vous mentir en tant qu'il est parfait, mais.
Quand il sera à peu près au point,
est-ce qu'il va vous intégrer à... Il y a des idées à prendre de la même façon que dans Speed, j'ai appris des idées, mais j'ai pas repris de code. Donc j'ai lu le code source, mais il est écrit en PHP et le vote écrit en Python. Donc j'ai appris des choses dans. Oui, c'est comme ça, Philippe. On a les choix. J'ai appris des choses de Speed, mais. En les convertissant et en fait en reprenant plus ces idées que je vois. Donc dans Gnufri, comme c'est écrit en Java, je ne vois pas trop l'intérêt de Java pour nos besoins. Il y a des gens très bien qui pensent que Java est bien. Pour l'instant, nous n'en avons pas besoin. Par contre, Venividi Voti est écrit en Java, c'est très bien. D'autres interventions? D'autres questions? Bon, ben vous êtes libre. Voilà. La bonne journée, bonne fin de l'unité. J'ai pas trop dit de bêtises, Emmanuel ?
Non, je ne fais pas le.